Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Les îles sont des milieux particuliers et fragiles en termes de biodiversité. Alors, comment les protéger ? Nous en parlerons dans quelques minutes avec Ronan Pascaud, directeur adjoint et responsable du pôle mer et littoral au parc naturel régional du golfe du Morbihan. Mais avant, prenons le large donc, direction l'île d'Ilure, en plein cœur du golfe. Cet espace naturel sensible est rattaché de façon administrative à la commune de l'île d'Ar, mais propriété du conservatoire du littoral et géré par le parc naturel régional du golfe du Morbihan. Partons donc à la rencontre de Xavier Le Gallo, qui est le garde de cette île et qui la gère avec ses équipes. C'est un reportage signé Mathieu Perret de Plume FM, votre radio associative locale dans le Morbihan et dans le pays de Redon.
Ouais, c'est le clocher de l'île d'Ar qu'on voit là-bas, la pointe du Lius ici. Et puis toute cette grande zone là, en fait, c'est une des deux grandes baies du golfe. En fait, c'est la zone décopage, ça s'appelle. Donc, c'est une zone qui sert à pomper de l'eau si jamais il y a le feu. Au niveau des terrains du conservatoire, on était en surveillance plus au niveau du risque incendie, hein, puisqu'on sait que le risque était là, notamment avec les tentatives de bivouac et du coup de feu qu'il peut y avoir. Voilà. Après, concernant Ilure, il y a eu juste un petit départ de feu qui n'était pas très grand, qu'on a réussi à éteindre assez vite, qui fait assez peur, hein, parce qu'on était sur une plage fréquentée, donc l'alerte a été donnée assez vite, mais sur une plage plus reculée, avec un petit peu de vent, ça aurait pu être plus catastrophique que ça. Bon, et ben, c'est parti.
On arrive devant le premier panneau d'Ilure qui nous rappelle que c'est un site naturel protégé.
Sur l'ensemble des sites du conservatoire du littoral, on a une réglementation sur site. Hein. Pour Ilure, on va dire que les trois grandes réglementations, c'est le feu, le bivouac et les chiens qui sont interdits. Les chiens, c'est parce qu'on peut avoir des oiseaux qui sont nicheurs au sol à certaines saisons. Et puis on a un troupeau de moutons aussi qui est en liberté sur l'île. On a déjà eu des risques d'attaque, des choses comme ça, donc aujourd'hui c'est interdit. Et puis le bivouac, parce que qui dit bivouac dit presque camping municipal sur l'île et possiblement, on en a parlé, feu derrière et peut-être déchets aussi, quoi. Ilure, c'est une île qui est située vraiment au centre du golfe du Morbihan, une des plus grosses îles du golfe après l'île aux Moines et l'île d'Ar. L'île d'Ilure, du coup, qui est publique, qui a été achetée du coup en 2008 par le conservatoire du littoral, hein. Et la gestion a été confiée du coup au parc naturel régional du golfe du Morbihan. Elle a été habitée jusqu'à la fin des années 50, début des années 60, par une dernière famille qui était agriculteur pour le compte du dernier propriétaire de l'île, quoi. Sur Ilure, on est beaucoup plus sur la nature, on va dire, entre guillemets, ordinaire, malgré qu'on a quand même des habitats qui sont primaires et quand même, hein, qui sont assez réduits, hein. On est surtout dans l'héritage de l'exploitation en passé, en fait, qu'il y a pu avoir sur l'île. Donc on a 7,5 km de murs en pierre sèche, plein de petits champs du coup, hein, voilà, et puis pas mal de haies bocagères. Voilà, et puis on retrouve un hameau aussi, le hameau qui est le témoin en fait de toute la vie qu'il y a pu avoir, hein, sur l'île, hein, puisque aujourd'hui il n'y a plus grand monde à habiter. Hein, mais on a eu du coup quand même jusqu'à 6 familles à habiter ici, en semi-autarcie, puisque pas rattaché au continent, avec les fours à pain qui vont avec les vergers qui vont avec, la culture de la vigne, etc. Quoi. On a de la chance sur l'île d'Ilure, c'est que du fait que l'île soit quand même relativement grande, hein, on a deux petits bassins versants, donc ce qui nous permet en hiver que l'eau descende des points culminants de l'île dans des failles granitiques, et donc dans des nappes de surface, donc on a des puits qui nous permettent d'avoir de l'eau. Est-ce que tu as un café ?
Avec plaisir. On arrive donc dans un des bâtiments du village hein, d'Ilure. Une belle cheminée, magnifique cheminée. On a de quoi observer les oiseaux. Il y a une lunette, évidemment. De quoi écouter la radio. Je vois qu'on est sur le 102.1. On n'écoute plus MFM aussi sur l'île d'Ilure. Et puis, un poêle. Hein, important de se chauffer. Quelques rames au cas où qu'il faille rentrer en urgence.
Globalement, c'est plutôt ma maison de fonction sur l'île. Mais c'est aussi une maison qui sert de point de repli pour les agents du parc naturel en général quand ils arrivent sur l'île.
Alors tu vis sur l'île, comment ça se passe?
On va dire plutôt en permanence ici en haute saison, hein, de mai jusqu'à septembre pour l'intérêt, c'est le risque feu, bivouac notamment le soir, hein, qui nous oblige on va dire à rester sur site. Et puis en basse saison, c'est plutôt la moitié de la semaine en fait, hein, puisque la gestion de l'île forcément comprend aussi beaucoup d'administratifs et c'est des missions qui sont beaucoup plus faciles à faire dans nos bureaux à Vannes.
Tu n'es pas tout seul, hein, on est venu accompagner aujourd'hui. Xavier, est-ce que tu peux nous présenter ton collègue
Hugo, donc je suis le renfort saisonnier de Xavier depuis 3 ans maintenant. Donc je viens à partir d'avril jusqu'à octobre pour l'aider dans toutes ses missions. Donc il est aussi dans l'objectif d'avoir une présence vraiment H24, on va dire, l'été sur l'île.
Vous avez l'air d'avoir beaucoup d'affinités. Je vois que vous êtes même plutôt fier de votre potager. Donc il y a des vrais projets en dehors aussi de la gestion de l'île. C'est essentiel pour toi un renfort, Xavier ?
40 hectares à gérer, c'est quand même conséquent. Hein. C'est d'autant plus conséquent quand on a entre 20 et 25 000 visiteurs par an à accueillir, entre guillemets, hein, et à surveiller des fois. C'est sûr qu'il faut une pression de surveillance en haute saison, qu'il faut un renfort pour entretenir le site. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment on pourrait faire sans un renfort l'été en plus, ouais.
Le gardien d'Ilure n'est pas un ermite, il vit en société, il a un collègue et presque 20 à 25 000 visites par an. Ça me semble énorme par rapport aux chiffres qu'il y avait il y a déjà quelques années. On parlait plutôt de 10 000 visiteurs.
Il y a un attrait global du golfe du Morbihan, hein, c'est sûr. Hein, tout notre travail justement, c'est dans on va dire, l'accueil du public sur site et la gratuité, c'est de mettre des règles en place et que tout le site ne soit pas accessible. Donc c'est trouver les bons compromis entre protection de l'environnement, des habitats, de la faune, de la flore et l'accueil du public. Donc voilà, donc on a des endroits réservés aux gestionnaires, on va dire des zones un peu tampons pour la préservation des espaces. Et puis on va avoir des zones qui sont 100% accessibles au public et puis qui servent aussi du coup de... on va dire d'école du parc, entre guillemets, et lieu de sensibilisation pour le public.
On parle aussi d'une île autonome. Alors, est-ce bien le cas en électricité, en eau? Raconte-nous un petit peu tout ce fonctionnement sur l'île d'Ilure.
Le but du parc naturel régional et du conservatoire du littoral, après avoir acquis l'île, hein, c'était de ne pas être sous perfusion du continent de façon énergétique, quoi, hein. Il a fallu réfléchir à des solutions. Le but, c'était aussi hein, que ça fasse un petit peu un laboratoire de développement aussi pour et les autres îles qu'il y a dans le golfe et pour le reste du territoire. Hein. Donc on a réfléchi, on va dire, ensemble. Hein, y a eu beaucoup de cerveaux à réfléchir sur des solutions assez innovantes, d'ailleurs. Et donc, du coup, on a réussi avec, on va dire, l'aide de bureau d'études, hein, à traiter l'eau qui est sur place, avoir de l'électricité via des panneaux solaires et puis avoir, ben, depuis deux hivers, hein, une station de phytoépuration. Donc là, c'est les roseaux et les phragmites hein, qui vont nous aider à filtrer nos eaux sales. Voilà, donc on a une zone d'infiltration derrière, contrôlée bien sûr, on peut garantir aucun rejet de polluants en mer, quoi. Et déjà, il faut rester à notre échelle, hein. On ne peut pas donner des leçons à des îles qui sont beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus de population. On va dire que où on peut avoir une carte à jouer, c'est sur des petits espaces avec peu d'habitants. On sait qu'aujourd'hui, les énergies qu'on a mises sur l'île, ils sont calibrés pas pour une personne, mais par exemple, ils ont été calibrés pour 20 personnes pour notre épuration. Ils ont été calibrés pour pas mal de personnes aussi pour notre électricité. L'eau nous permet d'avoir, on va dire, 1000 litres d'eau traitée par jour. On est quand même sur des systèmes assez réduits, mais globalement, on pourrait l'adapter sur d'autres îles avec peu de population. L'île fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau des petites îles durables du monde. Hein. Son nom, c'est Smilo. Et en fait, on est sur des îles qui sont relativement petites, avec peu d'habitants. Et là, c'est bien d'avoir du mécénat, entre guillemets, de compétences, d'île à île, pour se donner les bonnes combines, pour être le plus durable et résilient possible, quoi.
Moutons, ce sont des moutons qui entretiennent ces fameux espaces. Qui gère ce troupeau ?
Les moutons, c'est un outil de gestion, hein. C'est une tondeuse, hein, on va dire. Aujourd'hui, on en a 44. C'est une race qui est locale, hein. c'est du Land de Bretagne. Sur la région, on a du coup le Land de Bretagne, le Ouessant et le mouton de Belle-Île. Hein. Le Land de Bretagne, il a été retrouvé à la fin des années 80 en Brière. Puis la race a été relancée, on va dire. Aujourd'hui, pour atteindre quelques milliers de têtes, c'est une race qui nous intéresse, gestionnaire d'espaces naturels, hein, parce que elle a pas besoin d'antiparasitaires, elle a pas besoin de vermifuges. Le troupeau est poussé à l'extrême, on va dire, pour être le moins dépendant possible de l'homme et être le moins exigeant au niveau de la nourriture, ce qui leur permet de pouvoir manger des fois des ligneux comme les ronces, ce genre de choses. Très bonne race pour la gestion des espaces naturels. Ouais, faut pas oublier qu'un parc naturel régional, c'est pas une entité forte de protection à un endroit donné, mais c'est plutôt vivre avec un territoire. Et puis c'est d'avoir un bon compromis entre gestion des espaces et économie et vie locale pour être le plus durable possible dans le temps, en fait, et surtout ça.
Je vais vous laisser retourner à vos occupations. Je dis vous, parce que vous êtes deux à m'accueillir aujourd'hui. Un très grand merci. Et puis peut-être un petit message aux auditeurs, auditrices, qui se disent, ben tiens, on passerait bien sur cette île faire une petite balade.
On les accueille volontiers, hein, avec grand plaisir. Il ne faut pas hésiter aussi à s'informer sur le site du Parc Naturel Régional, sur le Facebook du parc. Par rapport à la balade et sur site et dans le golfe, eh ben, on vous invite à vous renseigner aussi sur la réglementation en place et puis comment faire un tourisme, on va dire, le plus durable possible.
À l'instant, ce reportage avec les chargés de mission du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan qui s'occupent au quotidien de la gestion durable de l'île d'Ilure. C'était un reportage signé Mathieu Perret de Plume FM, votre radio associative en français et en gallo dans les régions de Séran et de Redon. Alors pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en liaison aujourd'hui avec Ronan Pascaud qui est directeur adjoint et responsable du pôle mer et littoral du parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Ronan Pascaud, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter en quelques mots ce que sont les principales missions du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan sur, en particulier, la gestion de ces îles de ce parc ?
Oui, alors nous, on est une collectivité territoriale, on travaille pour les élus et on intervient sur toutes les communes, dont les communes qui peuvent être des îles, comme l'île d'Ar, par exemple, qui est partie du Parc naturel régional. Mais il y a aussi de nombreuses autres îles ou îlots qui sont soit dépendantes des deux îles qui sont des communes, l'île aux Moines et l'île d'Ar, ou soit qui sont rattachées au territoire communal d'une commune terrestre. Donc en fait, pour une commune comme l'île d'Ar, on va intervenir comme l'ensemble des autres communes terrestres, sur toutes nos missions d'accompagnement des documents d'urbanisme, de meilleure connaissance de la biodiversité, d'aménagement du territoire, le paysage, donc toutes les thématiques que peuvent aborder un parc naturel régional. C'est vrai que sur les petites îles, on peut avoir une activité un peu différente. On a mené tout récemment un travail exhaustif sur une meilleure connaissance du petit patrimoine maritime bâti que l'on trouve sur notre territoire. Donc, on a arpenté tout le linéaire côtier de notre territoire, dont le linéaire côtier de toutes les îles et les îlots du Golfe. Donc, on a une bonne connaissance du patrimoine culturel qu'on peut trouver sur ces îlots. Et on fait encore un travail spécifique sur l'île d'Ilure, qui appartient au Conservatoire du Littoral et dont on est le gestionnaire.
Très bien. Comment, Ronan Pascaud, réagissez-vous finalement au reportage que l'on vient d'entendre à l'instant sur cette gestion de l'île d'Ilure par vos collègues du parc ?
Ben, ça représente assez bien ce qu'on cherche à y faire. Hein. Depuis 2009 maintenant, Ilure a été acheté fin 2008 par le Conservatoire du Littoral. Et c'est vrai que depuis 2009, l'idée a toujours été d'essayer d'en faire un peu un laboratoire. Je ne sais pas si c'est un bon terme, mais on teste des choses sur Ilure qu'on peut être amené à reproduire après sur, euh, sur d'autres communes. En 2020-21, on a posé sur Illure des mouillages innovants, on appelle ça, donc des mouillages à moindre impact sur les fonds marins. Ça a été un des premiers endroits où on a testé ces mouillages. Et l'année dernière, et entre 2022 et 2023, on a dupliqué cette technique sur 450 autres mouillages sur l'ensemble du col du Morbihan. Donc c'est vrai que on n'est pas chez nous, mais un petit peu. On est chez le conservateur du littoral qui est le propriétaire et on est le locataire sur une longue durée. Mmh. On travaille très bien avec le conservatoire et c'est vrai qu'on peut se permettre de tester des choses là-bas et de les reproduire ailleurs si ça marche bien.
Justement, si on reste sur cet exemple d'Illure, est-ce qu'on est là ici dans le cadre d'une gestion exemplaire, très poussée en termes de protection écologique, de protection de la biodiversité dans le contexte illien, est-ce que c'est très différent des autres îles? Est-ce que vraiment, vous parliez de laboratoire, est-ce qu'on est vraiment là ici, on a poussé à l'extrême le côté gestion durable de cette île?
C'est vrai qu'on essaye de le faire parce qu'on n'a pas non plus de critères de résultats ou de rentabilité à atteindre. Donc, on se permet par exemple d'avoir un troupeau de moutons pour nous aider à gérer... à gérer ces espaces naturels. Ça prend sûrement plus de temps, mais voilà, on n'est pas des agriculteurs non plus, donc on n'a pas de rentabilité, on n'a pas de rentabilité financière à obtenir. C'est vrai qu'on peut se permettre des choses. Sur la gestion des fougères, par exemple, on teste depuis plusieurs années maintenant un protocole scientifique que l'on a trouvé en Angleterre sur le fait de fatiguer les fougères plutôt que de les couper nettes. Et on voit qu'aujourd'hui, au bout de certaines années, alors ça prend du temps, mais on a l'impression que ça commence à porter ses fruits. Donc, c'est vrai qu'on pousse le vice de la gestion un peu plus loin en essayant des choses alors qui peuvent marcher ou un peu moins, mais c'est vraiment intéressant.
Qu'est-ce qui explique que cette île, justement, peut-être par ses spécificités, fasse l'objet d'une gestion aussi renforcée dans le golfe du Morbihan? Est-ce que j'imagine que ce n'est pas forcément le cas des autres îles du golfe à ce
Non,
point.
Ce n'est pas du tout le cas des autres îles du golfe. Pas du tout, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas du tout que les autres îles du golfe ne font pas bien. Mais c'est vrai qu'on a, moi je dis qu'il y a 53 îles dans le golfe, deux îles qui sont des communes et une cinquantaine qui sont rattachées, soit c'est des communes îles, soit des communes continentales. Mais elles sont, à part Illure et une autre petite île qui s'appelle Petit Logoden en face d'Aradon, toutes ces autres îles sont privées. Donc la gestion qui a lieu est privée, est faite par les propriétaires. Ils la font comme ils souhaitent. On a plutôt des bons échanges avec nombre d'entre eux y compris sur des échanges d'expérience de gestion des milieux naturels de ces îles. C'est vrai que la particularité d'Illure, c'est qu'elle appartient au conservateur du littoral. Donc, elle est inaliénable. Le conservateur du littoral ne va jamais la revendre à quelqu'un. Donc, c'est vrai qu'on sait qu'on est sur du temps long aussi pour faire des choses sur cette île. Et on est bien auprès du conservateur aussi sur une gestion naturelle. Par exemple, à Illure, on ne lutte pas contre les submersions marines, contre l'élévation du niveau de la mer, comme sur aucun des sites du conservateur du littoral. Donc, on est plutôt à essayer de gérer cette île avec la nature.
Si on dézoome maintenant et on prend un peu de recul par rapport à la spécificité de cette île d'Illure, quel tableau peut-on dresser un peu de la situation en termes d'environnement et de biodiversité des autres îles du golfe du Morbihan?
Oui, ce sont des îles qui abritent plutôt à beaucoup de biodiversité. Ce sont des petits microsystèmes. Hein. Là, je parle plus des îles et des îlots qui ne sont pas des communes. Donc voilà, sur l'île Lemoine, l'île Lars, on a des habitations, des routes, etc. Plus comme une commune terrestre. C'est vrai que sur les îles et îlots, on a plutôt peu d'urbanisation, voire pas du tout. Voilà, on a sur les 50 îles et îlots, on en a une petite vingtaine qui ont un patrimoine bâti. Éventuellement habité ou habitable, ce n'est pas toujours le cas. Il y en a aussi beaucoup d'espaces naturels qui abritent plutôt de biodiversité parce qu'il y a assez peu d'hommes à y aller finalement. Sur les îles privées, tout à chacun n'a pas le droit de rentrer dans l'île. On peut débarquer sur la plage ou sur l'estran, mais on ne peut pas rentrer dans l'île. Donc il y a plutôt pas mal de biodiversité, mais il y a aussi des fragilités. On échange en ce moment avec le propriétaire du Nil qui a des problèmes avec les cormorans. Voilà, les fientes de cormorans sont très acides et ils vont brûler les arbres dans lesquels vont nicher les cormorans. Et on a l'impression que cet espace-là, il y a eu un incendie, alors que c'est juste, entre guillemets, les fientes de cormorans qui donnent cet aspect brûlé. Mais en tout cas, les zones boisées de cette île, et comme d'autres, reculent petit à petit. Oui. Donc, mais le cormoran est une espèce protégée. Donc voilà, on travaille aussi avec les propriétaires privés, avec l'Office français pour la biodiversité, par exemple, avec la DDTM du Morbihan, sur comment essayer d'aider les propriétaires privés de ces îles contre ce problème, mais tout en préservant cette espèce que sont les cormorans. Une autre menace, quand même, on parle d'îles et îlots, c'est les risques côtiers. Hein. On sait qu'au niveau mondial, la mer va monter de 1 mètre environ d'ici 2100. 99% de la communauté scientifique est d'accord là-dessus. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur ces risques côtiers, submersion, élévation du niveau de la mer. Donc un des risques, c'est quand même voilà, la diminution des espaces insulaires par cette élévation du niveau de la mer.
Donc les effets du réchauffement climatique en premier lieu, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres menaces? Je pense par exemple aux pollutions marines, aux espèces invasives. Alors là, on reparle de réchauffement climatique peut-être, et puis,
ouais.
Et puis aussi peut-être le tourisme de masse, parce que le golfe du Morbihan est un endroit extrêmement visité, notamment au printemps, l'été, même toute l'année, et notamment aussi par la plaisance.
Tout à fait. Donc, j'allais la citer, vous l'avez fait aussi, les espèces exotiques envahissantes sont une menace, on en a beaucoup malheureusement. La plus connue est peut-être le baccharis, hein, cette espèce végétale américaine, enfin importée des États-Unis et qui prolifère sur nos territoires littoraux. Ça fait plusieurs années qu'on y travaille, mais c'est compliqué à éradiquer. Il y a plusieurs centaines de milliers de graines sur chaque plant. Donc il faut faire attention de couper ces plants à telle saison, de le faire de telle manière. Donc voilà, on coordonne des chantiers d'arrachage de baccharis bénévoles sur l'ensemble de notre territoire. Mais je cite cette espèce, il y en a d'autres malheureusement. Donc les espèces exotiques envahissantes sont une menace. Évidemment, la fréquentation, hein, alors c'est un avantage, un inconvénient. Hein, d'avoir du monde sur un territoire comme le nôtre, ça crée de l'économie. On a un taux de chômage qui est plus faible que la moyenne nationale, etc. Mais il y a quand même beaucoup de monde. Parfois peut-être trop de monde. Mmh. On commence à parler de capacité d'accueil, de capacité de charge. Alors, c'est très compliqué de dire à partir de combien de personnes dans le golfe Morbihan on a dépassé la capacité d'accueil du golfe. C'est complexe en question. Mais on s'y penche, et notamment, vous avez cité la plaisance. L'idée n'est pas d'interdire les activités économiques ou les activités de loisirs, mais plutôt, s'il faut, de travailler avec elles pour qu'elles aient le moins d'impact possible sur le territoire. Depuis plusieurs années, on travaille très bien avec les clubs de plongée, avec les plaisanciers, avec les clubs d'aviron, de kayak, de paddle, etc. Et là, on a déposé un projet à la Fondation de France et à l'Office français pour la biodiversité pour justement avoir une meilleure connaissance des flux de ces activités nautiques de loisirs. Non pas pour les fliquer, entre guillemets, mais pour mieux savoir où elles sont, à quel moment de l'année, à quelles heures de la journée, pour qu'on puisse, nous et d'autres, adapter nos mesures de gestion et de sensibilisation en fonction de la pratique.
Il y a une prise de conscience, justement, du tourisme et de la plaisance, justement, par rapport à la fragilité de ce milieu dans le golfe du Morbihan. Est-ce que ça évolue depuis quelques années dans les prises de conscience? J'imagine que vous faites aussi un travail de sensibilisation assez important à ce niveau-là.
Tout à fait. En fait, on travaille beaucoup sur la sensibilisation. Alors, c'est un travail de longue haleine, mais on sait que sur du temps long, ça fonctionne. Nous, ça fait depuis 2016 que chaque été, on a un médiateur ou une médiatrice de la mer. Donc, c'est quelqu'un qui est sur le plan d'eau, en bateau, sur un semi-rigide électrique en l'occurrence, et qui va à la rencontre des plaisanciers. Alors, quand je dis plaisanciers, qu'ils soient à moteur, à voile, en paddle, en kayak, enfin, tout support nautique de loisirs. Et on les aborde jamais quand ils naviguent, mais dès qu'ils sont à l'arrêt, en pause, au mouillage, au port, à la sieste, à l'apéro, on se permet de les aborder. Dans 99% des cas, ça se passe bien. Et là, nos médiateurs, ils discutent entre 5 minutes et jusqu'à 45 minutes parfois avec chacun de ces personnes qui sont sur ces bateaux. Depuis 2016, on a abordé 3500 bateaux, plus de 10 000 plaisanciers. Et ça fonctionne plutôt bien. On se rend compte qu'il y a, même s'il y a toujours des gens qui connaissent la loi et qui iront à l'encontre de la loi, mais ça c'est propre à toutes les activités, on se rend compte qu'il y a quand même surtout une grosse méconnaissance tout court des spécificités maritimes du golfe, par exemple. Donc le rôle de ces médiateurs, c'est d'aller à la rencontre des plaisanciers et de leur dire ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire, comment mouiller son bateau à tel endroit ou plutôt qu'à tel endroit, etc. Et ça se passe plutôt bien. Et aujourd'hui, au bout de presque 10 ans, on rencontre à nouveau des plaisanciers qu'on a déjà abordés lors des années passées. Et on continue de discuter avec eux parce qu'on cherche à savoir s'ils ont changé leur pratique depuis qu'on les a rencontrés. Et on se rend compte que, alors ce n'est pas scientifique, ça reste des constatations empiriques, mais on se rend compte que la prise de conscience a lieu quand même et que cette sensibilisation qui est chronophage, hein, qui prend du temps et donc de l'argent, est quand même très utile parce que ça se passe très très bien.
Ouais. Une sensibilisation qui porte ses fruits et qui fait partie de vos actions.
en plus de la gestion scrupuleuse des milieux, est-ce qu'il y a peut-être à l'avenir d'autres réponses à apporter pour protéger encore plus cette biodiversité lienne dans le golfe du Morbihan? Est-ce que vous avez pensé à de nouvelles actions dans le futur?
Oui, cette sensibilisation, il faut la maintenir. Comme je l'ai déjà dit, c'est sur du temps long. Après, il ne faut pas se leurrer. On a parfois besoin de protéger de manière réglementaire également.
Hein. Oui.
Le tout réglementaire, moi, je n'y suis pas favorable. Mais il en faut de temps en temps. Dans le golfe du Morbihan, on a quelques arrêtés de protection de biotopes. Il y a Natura 2000. C'est nous-mêmes l'opérateur, d'ailleurs, délégué par l'État. Donc, on a besoin parfois d'avoir aussi des outils réglementaires où parfois, il faut interdire. On a des arrêtés de protection de biotopes qui interdit de descendre sur certains îlots du golfe entre telle date et telle date pendant les zones de nidification des oiseaux, par exemple. Donc, aujourd'hui, l'État travaille sur des zones de protection fortes. Il n'y a rien encore de décidé, mais on sait qu'à certains endroits très fragiles, on a besoin parfois de réglementer. Et notre rôle est aussi d'accompagner, comme je l'ai cité rapidement tout à l'heure, à partir de 2026, il n'y aura plus le droit d'avoir des mouillages de plaisance sur des herbiers austères.
Oui.
Les herbiers austères, c'est une plante marine qui vit dans l'eau. Le golfe du Morbihan est la deuxième plus grande surface d'herbiers austères en France. C'est là qu'on les frayait les poissons, les crevettes, les hippocampes, les sèches, etc. Donc, c'est un habitat qui est assez intéressant. Et en fait, plutôt que d'attendre 2025 et que les communes se retrouvent un peu devant le fait accompli, on accompagne avec des moyens financiers que l'OFB nous met à disposition. On accompagne les communes pour qu'elles convertissent leur mouillage classique en mouillage à moindre impact. Et en fait, aujourd'hui, on espère que pour fin 2024, on aura converti l'ensemble des mouillages de plaisance qui sont sur les îles austères dans le golfe. Donc voilà, on essaye aussi d'anticiper pour qu'il y ait le moins de réglementaire possible, et même s'il en faut, mais le but n'est pas d'aller au clash avec les communes en disant « c'est trop tard, il faut que vous enleviez vos mouillages ou faut que les mettiez ailleurs ». Les espaces ailleurs, ils n'existent pas, ça se saurait. Donc, on essaye plutôt d'adapter les pratiques avec les services de l'État et les pratiquants.
On l'a entendu dans l'exemple d'Ilure, et vous venez de le rappeler, ce milieu est extrêmement protégé, entretenu, gardé et donc réglementé aussi. Mais ce milieu travaille aussi beaucoup sur son autonomie. C'est l'autre aspect aussi de la gestion à Ilure. Est-ce qu'il faut suivre cet exemple pour toutes les îles, finalement, de cette gestion aussi autonome du milieu ilien?
Suivre pour tout, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que l'idée d'Ilure, quand j'ai parlé de laboratoire, c'était sur Ilure, comme vous l'avez peut-être vu dans le reportage, on est autonome en électricité, on est autonome en eau potable et on est autonome sur l'assainissement de ces eaux grises, une fois qu'elles sont utilisées, ces eaux grises et ces eaux noires. Ce qu'on a voulu, c'est montrer qu'on peut aussi faire sans être rattaché au continent. Donc, ça coûte un peu cher, hein. Faut pas oublier que tout travaux sur une île coûte quasiment 40% plus cher que les mêmes travaux sur le continent. Et voilà, l'idée, c'était plutôt du démonstrateur. Ilure est un démonstrateur de ce qu'on peut faire. Après, je pense que sur les îlots du golfe, c'est quand même intéressant plutôt que tirer un câble de plusieurs centaines de mètres ou de milliers de mètres depuis le continent pour amener de l'eau et de l'électricité. Si on peut faire autrement et rendre certains aspects de l'île autonome, c'est intéressant. C'est ce qui se passe dans plusieurs des îlots et peut-être qu'il faut encore accentuer cet aspect-là.
Renaud Pascoe, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint et responsable du pôle mer et littoral du golfe du Morbihan. Le site internet du parc, c'est le www.parcgolfmorbihan.bzh. Sachez que l'ensemble de nos épisodes sont en tout cas diffusés sur les antennes des radios associatives de la Corlab en Bretagne, sur Radio Boa, leur émanation régionale. Vous pouvez retrouver également nos podcasts sur le site corlab.org, rubrique podcast et biodiversité en air. On se retrouve donc très vite pour un nouveau numéro de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.